Bonsoir. Ouverture ce mercredi à Lubumbashi au Katanga de la conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier. Dans son discours à cette occasion, le président de la République propose la lutte contre la fraude, la corruption et la contrebande minière comme l'une des pistes pour combattre le paradoxe entre les immenses richesses du pays et la pauvreté de la population congolaise. Quelle analyse faire de l'organisation de cette conférence? Quel mécanisme mettre en place pour assurer la bonne gouvernance dans le secteur minier? Pour en parler, nous recevons comme invité Mabolia Yenga, coordonnateur national du programme d'appui au secteur minier ProMine, une structure dépendante du ministère des Mines. Monsieur Mabolia, bonsoir.
Bonsoir.
Franck Fouamba, journaliste, expert minier et éditeur du Mining News Magazine et membre de la société civile du Katanga. Monsieur Fouamba, bonsoir.
Bonsoir.
Willy Kalingai, directeur général de Géopolis, magazine économique des activités extractives. Monsieur Kalingai, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ouverture aujourd'hui à Lubumbashi de la conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État a affirmé que lutter contre la fraude, la corruption et la contrebande minière est l'une des pistes pour combattre le paradoxe entre les immenses richesses minières du pays et la pauvreté de sa population. Notez qu'une centaine de personnes, dont des représentants des institutions du pays, des responsables d'entreprises et des membres de la société civile, prennent part à ces travaux de deux jours, comme l'explique Paulin Mounanga.
Dans son discours, le chef de l'État a donné les raisons de l'organisation de cette conférence. Il s'agit, selon lui, de réfléchir ensemble afin de combattre les déséquilibres qui existent actuellement entre les énormes potentialités minières que regorge le pays, les activités minières intenses et la modicité des bénéfices que l'État tire dans ce secteur, ainsi que les mauvaises conditions de vie de la population. Ainsi, il propose différentes pistes à examiner. C'est notamment la lutte contre la fraude, la corruption ou l'adaptation du code minier au contexte actuel. Joseph Kabila.
Nous devons améliorer notre part dans ce secteur vital de l'économie nationale et c'est la condition pour que ce secteur, reconnu comme porteur de croissance, devienne le vecteur du développement économique et social.
La société civile du Katanga, par le biais de son président, a apprécié le discours du chef de l'État, mais elle exprime ses inquiétudes quant à la mise en application des recommandations issues de la conférence. Jean-Pierre Mouteba.
Au-delà du discours, nous voulons que le chef de l'État puisse s'impliquer réellement dans la gestion du secteur minier, c'est-à-dire arrêter toute ponction financière dans les entreprises aujourd'hui publiques, lutter contre la fraude tous ensemble, parce qu'il y a une fraude généralisée.
Signalons que les travaux proprement dits ont débuté par des exposés sur la situation du secteur de l'environnement minier. Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Merci Paulin Mounanga. Mabolia Yenga, vous êtes coordonnateur national du programme d'appui au secteur minier ProMine, une structure dépendante du ministère des Mines. D'abord, pour commencer, dans quelle ambiance se déroule cette conférence?
Il est aujourd'hui indéniable que le secteur minier est en pleine croissance. La production est...
Il y a la société civile, les industries, ainsi que donc la partie gouvernementale qui est fortement représentée par le président de la République ainsi que le premier ministre, les membres du gouvernement. Donc c'est une bonne ambiance qui se déroule actuellement ici à Lubumbashi.
Alors vous avez suivi les raisons avancées par le président de la République. En organisant cette conférence, y avait-il opportunité?
Il y avait une très bonne opportunité. Donc au regard de ce qui s'est passé ces derniers temps, tant du côté de... Des points de vue différents avec le Fonds monétaire international qui ont quand même épinglé le secteur minier comme étant un secteur qui ne tenait pas satisfaction à 100%. Et aussi, bon, avec la révision du code minier qui arrive, donc toutes les attentes et les inquiétudes des uns et des autres, il fallait vraiment trouver une piste pour commencer à réfléchir et à parler ensemble, et je crois que le président a fait un discours d'orientation et de sa nouvelle vision, comment il voit le secteur minier. C'est comme ça qu'il a fait d'abord la relever un peu l'historique, hein, depuis l'époque coloniale, l'indépendance, la politique minière finalement n'a pas été attractive et elle a été surtout tournée pour servir donc l'économie coloniale. Et donc aujourd'hui, il y a, comme il dit, le paradoxe. Comment se fait-il qu'on produit de plus en plus, mais les recettes au niveau de l'État ne suivent pas? Et donc, il faut vraiment réfléchir à ce qui pourrait être fait pour améliorer cette situation.
Alors, vous dites que le FMI a épinglé le secteur minier comme étant non satisfaisant. Ne peut-on pas craindre que cette conférence ne soit organisée que pour satisfaire la consommation extérieure?
Non, point du tout. Songez seulement que depuis combien de temps avez-vous déjà entendu parler où on a fait une réunion sur la bonne gouvernance où le président de la République, le premier ministre, au moins une dizaine de membres du gouvernement, la société civile, la FEC sont tous représentés pour parler de la situation. Ça ne peut pas être, comment dirais-je, juste pour la consommation extérieure, mais c'est vraiment la volonté donc du gouvernement et de toutes les autorités qui s'installent dans la rigueur, dans la gestion, une nouvelle vision de faire les choses qui soient finalement selon les règles saines.
Alors, la politique minière n'a pas été attractive. Quelles en sont les raisons, M. Mabolia Yenga?
Bon, donc, le président, dans son message, s'est interrogé. Il a fait un peu une rétrospective de l'histoire. Regardez un peu depuis l'époque coloniale comment ça s'est passé. C'était tous tournés pour alimenter les usines, donc... dans les colonies, et puis après avec l'époque du président Mobutu, la situation était donc, comme on disait, des ponctions. On a mis le code minier, mais aujourd'hui on voit qu'il y a une augmentation de la production, mais les recettes ne sont pas, disons, n'augmentent pas de manière sensible face aux enjeux et aux besoins de l'heure.
Et donc, si je comprends, la politique minière, à l'instar du code minier, n'a pas su s'adapter aux réalités actuelles?
Non, c'est une. Tout le monde reconnaît que le code minier qui a été donc mis en place en 2000 a permis, hein, a quand même fait augmenter la situation. Et d'ailleurs, tout le monde l'a dit, lorsqu'on regarde en 2002, par exemple, la production de cuivre, je crois qu'elle était c'était 50 000, mais aujourd'hui on est à plus de 600 000, donc ça a quand même porté ses fruits. Mais sur les 600 000, quand on regarde aujourd'hui ce que nous retirons, ce n'est pas la même chose que quand, par exemple, la GECAMIN produisait les 400 000 tonnes. Bien sûr, c'est différent parce que la GECAMIN, elle était une société étatique à 100%, ici vous avez des capitaux, mais comme le président l'a souligné, on s'interroge et il faut réfléchir. Donc la vision du gouvernement et de la politique, c'est que les mines, les infrastructures, le transport doivent créer le fondement d'un nouveau processus, d'une nouvelle économie congolaise.
Nous allons prendre pour vous, Mabolia Yenga, cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kassai Oriental.
Galvani Kiyouk, Mbujimayi au Kassai Oriental. Cette initiative est encouragée car elle va permettre à ce que les ressources minières profitent à toute la population congolaise au moyen d'une gestion efficiente et d'une lutte non théorique de la fraude et de la corruption, mais pratique dans ce secteur très sensible. Cependant, les bonnes initiatives sont toujours congolaises, mais la concrétisation est et reste toujours un tabou. Donc, volonté politique oblige.
Il rejoint un peu la société civile du Katanga qui a émis des craintes sur l'application même des résolutions qui seront issues de cette conférence, comme d'ailleurs plusieurs autres qui se sont passées avant.
Écoutez, nous sommes à la première journée, nous n'avons même pas terminé. Demain, il y a donc les trois parties prenantes vont se réunir pour faire des résolutions qui seront concrètes et on espère qu'on pourra donc faire dans ces réalisations un chronogramme. Le président l'a bien dit, il faut que ce soit une nouvelle habitude et qu'on prenne date qu'en janvier l'année prochaine, on aura encore une autre réunion. Et donc, je crois qu'il y a un an pour voir quelle sera la situation, si elle aura évolué ou pas.
Alors, avant de donner la parole aux autres intervenants, Mabolia Yenga, coordonnateur de Promine, quelle est la santé du secteur minier congolais aujourd'hui?
Les attentes du secteur minier?
Non, comment se porte le secteur minier congolais aujourd'hui?
Bon, il y a beaucoup de mots qui ont été épinglés de part et d'autre, hein, la société civile, l'industrie ont déploré les tracasseries. Mais en général, si vous voulez, bon, tout le monde est d'avis que le code a produit ses effets dans le sens qu'il a pu augmenter le nombre des investissements en RDC qui s'est accru considérablement. Et vous avez vu que la production aussi a augmenté. Mais bon, les tracasseries, cette corruption qui est rampante, les mauvaises habitudes acquises, les problèmes des pénalités qui fait une distorsion, c'est-à-dire que dans le problème des aviseurs, je crois qu'on s'est fait épingler par la FEC. Et donc, il y a plusieurs problèmes qui ont aussi été épinglés. Je crois que ça a été sans complaisance. Hein. De part et d'autre, toutes les parties prenantes, société civile, ont fait un diagnostic sans complaisance de la situation.
Merci. Franck Fouamba, vous êtes journaliste, expert minier et éditeur du Mining News Magazine et membre de la société civile du Katanga. Comment vous avez accueilli l'ouverture de cette conférence?
Merci, confrère. Personnellement, j'ai très bien accueilli l'initiative de l'ouverture de cette conférence parce qu'elle tombe à bien nommer. Primo, le chef de l'État est une des autorités légales selon le code minier qui peuvent intervenir dans le code minier. Bien qu'il y ait des attributions qui lui sont données, mais c'est un intervenant. Secundo, le chef de l'État est garant de la constitution, garant de la nation. La constitution garantit à tous les Congolais les droits de jouir des richesses de la même façon. Le chef de l'État est premier citoyen congolais. Ça veut dire qu'il a remarqué que tous les Congolais ne vivent pas comme ils devaient vivre, ne bénéficient pas de ce dont ils devaient bénéficier. Donc il y a un problème de justice distributive. Et le chef de l'État, en tant que premier magistrat, a compris qu'il est grand temps que quelque chose soit initié pour qu'il y ait justice distributive auprès et de ceux qui exploitent et de ceux qui doivent bénéficier. Son discours, il est très bon et la société civile l'acclame et la société civile le soutient totalement parce que le chef de l'État vient de rencontrer ce que la société civile a toujours dit. Il faudrait que ça soit bien clair que le chef de l'État a voulu que cette conférence soit un cadre de réflexion ensemble pour combattre certaines choses qui ne vont pas dans le secteur minier. Ça veut dire que certaines personnes, certains officiels, certains membres des services de l'État qui se sentiraient concernés, ils ne doivent pas voir dans la société civile, ils ne doivent pas voir dans les résolutions qui sortiront de cette conférence, ils ne doivent pas se sentir visés personnellement, mais ils doivent comprendre que pour le bien de la nation, le chef de l'État a initié un cadre dans lequel les choses doivent évoluer. C'est une initiative que nous soutenons au niveau de la société civile et ONG et la presse. Et la presse, je la pousse à faire large écho de l'intervention du chef de l'État, de faire large écho des résolutions qui seront prises et de continuer à investiguer afin de dénoncer les sous-valeurs, de dénoncer la fraude, la corruption, la contrebande. Parce que pour les combattre comme le chef de l'État veut, il faut qu'on les dénonce, il faut que les gens les connaissent et à ce moment-là, on pourrait les combattre. Et je pense que c'est une opportunité, comme j'ai dit, et autant qu'on avance avec le sujet, on pourra davantage entrer en profondeur pour voir ce que cette initiative qui est très bonne, très saluée, nous saluons le chef de l'État pour ce qu'il a fait, comment cette initiative va apporter un changement au secteur minier de la RDC.
Alors vous avez suivi le coordonnateur du Promine, M. Mabolia Yenga, tout à l'heure, en parlant de la santé du secteur minier. Il a notamment évoqué les tracasseries, mais en dépit de cela, il y a l'augmentation des investissements, de la production. À travers vos lunettes de membres de la société civile, quel est le diagnostic à ce jour qu'on peut dresser du secteur minier congolais?
Confrère, comme je venais de le dire, j'ai dit bon, un diagnostic comme l'a fait le chef de l'État. Ce que M. Mabolia a dit, c'est très clair que aujourd'hui, non seulement qu'il y a beaucoup d'investissements, mais aujourd'hui nous avons des majors qui s'intéressent à la RDC. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, le grand mariage entre la multinationale ou la mastodonte Glencore, qui a les gisements au Katanga avec la Colombie, avec KCC. Et qui vient de l'acheter Mutanda et qui est en train de développer Kansuki. Glencore a fait une fusion plutôt avec Xstrata. Xstrata dans laquelle Glencore avait à peu près 33% de part. Et quand vous prenez au fond le but pour lequel Glencore est en train de faire son mariage, mais c'est pour contrôler le cuivre et le cobalt qui sortent de la RDC du Katanga, précisément. Ça veut dire que non seulement il y a des investissements qui viennent, aujourd'hui nous avons des gros, nous avons Freeport-McMoRan, qui n'est pas seulement en RDC, c'est une multinationale américaine, que l'on retrouve aussi en Indonésie, en Amérique, avec des grands intérêts. Nous avons ENSC, qui est un groupe européen des Kazakhs, mais il faut dire qu'il y a beaucoup plus londoniens et sud-africains. ENSC a des grands intérêts miniers à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous avons des majors. Nous avons Ivan Platt, qui est à Colosie avec Kamoa, avec le Kamoa. Kamoa qui, aujourd'hui, nous pensions qu'était un Funguru, mais c'était le plus grand gisement du monde pour le cobalt et le cuivre. Mais Ivan Platt, Ivan Noé vous dit, écoutez, le plus grand gisement de cuivre, c'est celui que je viens de découvrir à Kamoa. Et le premier jour en bourse, ils ont levé plus de 350 millions de dollars. Juste quand ils ont voulu lister quelques actions qui concernent la mine de Kamoa, de Colosie en bourse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a investissement. Il y a des majors qui viennent. Et la production pour cette année, pour 2012, nous sommes passés à 600 000 tonnes de cuivre. La production est en train de booster. Mais comme le chef de l'État l'a dit, quels sont les dividendes? C'est là que le problème se pose. Nous, au Katanga, nous disons, on produit. Oui. Mais pour gagner quoi? La République ne gagne pas. Quand la République ne gagne pas, on ne peut pas construire les routes, on ne peut pas construire les hôpitaux, on ne peut pas construire les écoles. Dans la population, on ne peut pas lui donner de l'eau, on ne peut pas lui donner de l'électricité. C'est ce qui fait même que la production augmente, qu'il y a les multinationales qui viennent, mais au Katanga, aujourd'hui, on a un problème d'électricité. Mais c'est grave. C'est là que je dis, comme le chef d'État l'a dit, il y a un paradoxe. Des richesses incalculables, enviées qui produisent beaucoup, mais pour quel revenu? Merci. Et pour quel gain à la population?
Merci.
Donc le secteur minier aujourd'hui, voilà ce qu'il affiche.
Merci, confrère Franck Fouamba. Willy Kalengai, vous êtes directeur général de Géopolis, magazine économique des activités extractives. Comment vous avez reçu l'organisation de cette conférence?
Avec beaucoup de joie, parce que c'est un moment important. Au passage, je salue mon confrère Fouamba et surtout le coordonnateur Mabolia. Je voudrais dire que c'est un moment important, mais c'est une étape, simplement une activité d'étape, dans un processus qui a commencé depuis déjà plus de 10 ans, depuis la promulgation du Code minier en 2002. Ma joie est profonde parce que j'ai entendu un mot qui est même à l'origine de la création de notre propre organisme Géopolis, c'est le mot paradoxe. Quand nous créons ce magazine Géopolis, nous avions évidemment à l'esprit de nous interroger sur l'essence profonde du paradoxe congolais. C'est-à-dire, nous avons une géo, donc une terre riche, mais nous avons des cités, donc des polices, des cités qui sont pauvres. Et quand le chef de l'État revient dans son discours aujourd'hui, il dit que le paradoxe congolais est un paradoxe criant, ça me réjouit parce que nous avons là une convergence d'idées et une plateforme de réflexion commune. Maintenant, il faut se poser des vraies questions et résoudre des vrais problèmes. De quoi s'agit-il? De quoi nous allons parler? Il s'agit de parler de bonne gouvernance et de transparence. Et je me dis que Lubumbashi ne devrait pas être un prétexte, mais devrait être un début. Un début d'une nouvelle culture dans la gestion de ce secteur minier qui est un secteur stratégique. Il faudrait bien qu'on le dise, c'est un secteur stratégique qui demande que des professionnels, seuls des professionnels peuvent y exercer des activités. Quand on fait un mélange de genres, quand on accepte que même des non-opérateurs, des non-miniers puissent venir y opérer, voilà la difficulté que nous avons aujourd'hui. Voilà, je crois que nous sommes en train de réaliser là aujourd'hui une activité importante parce que, pour une fois, le président de la République, le Premier ministre et beaucoup de membres du gouvernement, la société civile, les opérateurs sont dans une même salle. Ça veut dire qu'une activité est un focus de la nation. Il faudrait donc que les décisions, les recommandations soient à la hauteur des efforts qui ont été menés pour organiser une telle réunion. C'est une réunion qui a demandé énormément de tâches pour que tout ce monde-là se retrouve à Lubumbashi. Il faut donc que ceux qui sont concernés dans la décision et dans l'analyse ne se trompent pas du problème et qu'ils résolvent le problème tel qu'il se pose aujourd'hui. Pas de fantasmes, pas d'illusions, pas de faux rêves.
Peut-être que je vais vite en besogne, Willy Kalengai. Par rapport à cette conférence, à quoi devrons-nous nous attendre en termes d'innovation?
Moi, je pense que c'est beaucoup de gens, tous les grands opérateurs, les parties prenantes ont évolué généralement de manière isolée. Quand vous lisez les revendications de l'AFEC, l'AFEC, évidemment, le cordon Mabola est revenu là-dessus. L'AFEC estime que on ne peut pas dire que le secteur minier ne donne pas assez au Congo. Quand nous regardons aujourd'hui notre croissance de 7%, il est quand même traqué par le secteur minier. L'AFEC, donc, elle estime que non, les entreprises minières qui fonctionnent, qui travaillent, qui payent les impôts, sont maltraités parce que le pays ne reconnaît pas les efforts qu'ils font, qu'elles font, surtout en termes de donner des impôts. Mais par rapport aux besoins du pays, par rapport aux besoins d'investissement, aux besoins de développement, ce que les entreprises donnent aujourd'hui est insuffisant pour que nous puissions développer le pays. Du côté du gouvernement, le gouvernement s'interroge et le gouvernement se pose des questions légitimes. Nous avons mis en place un code minier qui libéralise en réalité. Des capitaux étrangers peuvent venir investir dans les secteurs. Avons-nous bien fait? Est-ce qu'il ne fallait pas garder les entreprises de l'État dans le monopole de production? Ce sont des questions que se posent aujourd'hui le gouvernement, parce que sachez bien que dans le cadre du code minier d'aujourd'hui, le produit appartient à celui qui le produit. Ce n'est pas un produit du gouvernement ou de l'État. À partir du moment où une entreprise a une concession et qu'elle a un produit, ce produit est vendu sur le marché international, l'État ne peut bénéficier que des impôts, que des taxes sur ce produit-là. Si l'État a des parts dans cette entreprise, l'État attendra les dividendes. Donc, il y a effectivement un vrai problème. C'est cette interrogation, elle est au cœur même de la réflexion autour de la révision du code minier. Il y a la société civile aussi qui s'interroge sur l'impact de toutes ces transformations. On est en train de déplacer des villages, on reconstruit d'autres villages, mais les gens se demandent si ces transformations leur sont profitables.
Alors, je reprends très rapidement un extrait du discours du chef de l'État. En ce qui concerne notamment les raisons de l'organisation de cette conférence, il s'agit, d'après le chef de l'État, de réfléchir ensemble afin de combattre le déséquilibre qui existe actuellement entre les énormes potentialités minières dont regorge le pays, les activités minières intenses et la modicité des bénéfices que l'État tire dans ces secteurs ainsi que les mauvaises conditions de vie de la population. Willy Kalengai, à suivre cette phrase, peut-on dire que l'État a-t-il laissé faire dans le secteur minier ou les mécanismes que l'État a mis en place n'ont pas été suffisamment forts pour encadrer ce secteur?
Le secteur est en marche et il faudrait pas... Vous savez, c'est un secteur qui demande énormément de moyens. Il faut aujourd'hui compter que, d'ailleurs, Franck Fouamba vient de le dire, il a fallu attendre au moins 10 ans pour que les majors commencent à venir dans le pays. Il fallait attendre donc que l'on mette en place d'abord un cadre dans lequel aller s'exercer ces nouveaux investissements. Deuxièmement, il y a la question profonde du développement de notre pays. Notre pays n'offre pas des infrastructures de base suffisantes pour que les investisseurs viennent directement et commencent à produire. Aujourd'hui, quand vous avez un investisseur, il doit d'abord chercher où va y trouver l'énergie, quelle est la route qui va l'amener jusqu'à la mine, dans quelle ville il va mettre ses travailleurs. Il y a donc ce vrai problème d'infrastructures de base. Et ça augmente le coût de l'investissement, ça augmente malheureusement la dette que ces entreprises-là contractent sur le marché international. Donc, si je peux me dire effectivement que la réflexion doit être menée, moi j'ai une pensée personnelle, j'ai toujours pensé que l'État n'avait pas à se désintéresser totalement du secteur minier en tant qu'opérateur. L'État peut libéraliser, mais dans le grand pays où il y a eu des fonds souverains, l'État avait quand même des parts importantes dans certains minier.
Alors, au cours de cette conférence, dans son discours, le gouverneur du Katanga a signalé les difficultés enregistrées dans l'alimentation des entreprises minières en énergie électrique. On l'écoute au micro de Paulin Munanga.
Il est aujourd'hui indéniable que le secteur minier est en pleine croissance. La production est passée de 190 000 tonnes de cuivre contenu et 12 665 tonnes de cobalt en 2007 à 585 000 tonnes de cuivre contenu et 109 098 tonnes de cobalt en 2012, et c'est en dépit de la crise financière internationale de 2008 qui a momentanément ralenti d'expansion de l'exploitation minière. Il convient de signaler que la production minière aurait été encore plus importante n'eût été le déficit dans l'alimentation de ce secteur en énergie électrique.
Alors, Mabolia Yenga, à part le problème d'énergie électrique, il y a également, il faut le rappeler, le problème de la démilitarisation du secteur minier.
Oui, mais je crois que les attentes ou les points que le président a relevés portaient notamment sur les entreprises, les communautés locales, sur leur développement dans les espaces miniers. Il a aussi épinglé, je crois, le partenariat avec les acteurs locaux, que ce serait très important. Il a parlé des problèmes de la sous-traitance. Il a parlé aussi de la informations, une bonne communication, des informations exactes sur les investissements dans toute la chaîne, donc le détenteur, l'investisseur, le montant. Il a parlé de nos accords, donc dans le sens d'améliorer la bonne gouvernance, notamment notre adhésion au processus de Kimberley à l'UPE. Il a parlé, si je me souviens bien, aussi du problème de la disposition sur le rapatriement des fonds. La gouvernance donc impose le respect d'une éthique pour tous, comme il l'a dit. Donc il y a plusieurs éléments qu'il a épinglés et qu'il a demandé que ce soit porté à la réflexion pour produire un cheminement vers quelque chose de meilleur.
Alors, peut-être que je repose ma question autrement. La démilitarisation fera-t-elle partie de cette réflexion? Parce qu'on sait que partout où il y a les mines, notamment à l'est du pays, il y a les groupes armés qui pilulent autour. Est-ce que ce problème fera aussi l'objet d'analyse pour que des solutions définitives soient trouvées?
La démilitarisation procède d'un problème de sécurité. Rien ne peut être fait si dès le départ il n'y a pas une sécurité. Donc ça c'est même au-dessus même de la zone de la bonne gouvernance et de la transparence. Il faut donc que le pays soit calme pour qu'on puisse, mettre en place toutes sortes de systèmes de contrôle et tout ça. Donc c'est une priorité, je crois, du gouvernement, et c'est bien, il faut donc la paix revienne sur tout le territoire national. Ça c'est une priorité du gouvernement actuel.
Alors, quel mécanisme mettre en place pour assurer la bonne gouvernance dans le secteur minier? Mabolia Yenga, le président de la République, propose notamment la lutte contre la fraude, la corruption ou l'adaptation du code minier au contexte actuel. Ces solutions ne sont-elles pas du déjà entendu?
Du déjà entendu, encore une fois, on a peut-être dit, mais chacun le disait, de manière, solitaire. Là, on a réuni tout le monde, les trois parties prenantes, et on parle. Et donc, on propose. Moi, le temps ici, c'est d'avoir de bonnes résolutions, et comme l'opportunité est ici présente, qu'on ait aussi, des mécanismes de redevabilité qui soient mis en place. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet promis de la bonne gouvernance, nous proposons une plateforme de redevabilité. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà ça, parce que vous avez tous les ministres qui étaient concernés, environnement, justice, ont été présents et ont expliqué donc leur démarche, ce qu'ils faisaient dans le cadre du secteur minier. Si maintenant nous avons des résolutions et les coulons sous forme de résolutions avec exécution d'un chronogramme comme nous faisons actuellement dans la matrice de gouvernance économique internationale, on peut se retrouver dans un an et savoir par rapport à ce que nous avons fait aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est une bonne manière de répondre à tous ceux qui diront que bon, c'est déjà entendu. Moi, je crois que c'est ça qu'il faudrait exploiter donc dans le cadre de ces assises.
Alors, il y a Robert Kabandani qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu qui dit « Pour parler d'une bonne gouvernance, qu'elle soit dans le secteur minier ou dans un autre, combattre la corruption sans améliorer les conditions de vie des travailleurs est une peine perdue. »
Pour améliorer, le vécu du quotidien, il faut avoir plus de recettes pour qu'on puisse. Si vous gagnez 10 000 dollars, vous ne pouvez pas vivre avec un train de vie de 20 000. Donc cela implique, et je crois que le gouvernement l'a bien dit, une rigueur dans la gestion, gage d'une bonne gouvernance. Et la rigueur, c'est la programmation c'est l'anticipation des besoins et c'est d'une exécution d'un programme bien établi. Et donc la bonne gouvernance, tous ces éléments procèdent à améliorer la situation, savoir combien rentre, combien sort. Et je crois que le chef de l'État a même épinglé, si je me souviens bien, une phrase qui était assez intéressante. Il a dit, je crois, la bonne gouvernance doit être constamment améliorée.
Merci.
La transparence en perpétuel progrès. Donc, c'est ça l'idée. On Merci. Commence quelque chose et on doit constamment aller vers l'amélioration. Et lorsque vous avez des instruments comme l'ITIE, vous permettent déjà de savoir combien est-ce qu'il a été payé.
Merci.
Et ensuite, combien est-ce que les compagnies ont payé et combien le gouvernement a reçu. Donc, c'est déjà Merci. Une amélioration de la connaissance de la personne, de ce peuple qui ne connaissait rien avant.
Merci, Mavoli Ayenga. Franck Fouamba, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka, l'Équateur.
Iminaba Sembe depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. À mon avis, comme ce secteur minier évolue depuis plusieurs années dans une spirale régressive pour la quasi-totalité de la production minière. Face à ces constats, la stratégie la mieux adaptée présentement pour favoriser le développement du secteur minier est de l'ouvrir à la libre entreprise. Il faut rendre le secteur minier congolais attractif pour le privé et l'État interviendra comme un facilitateur de l'investissement, régulateur, garant de la législation et promoteur de l'activité minière. À cet effet, la mise en place d'un cadre juridique et fiscal favorable à l'investissement est une condition sine qua non.
Réaction Franck Fomba.
Je comprends le souci du compatriote, mais je vais répondre, réagir plutôt en me basant sur le fait que William Kalinga, que je salue, a évoqué, et Paul Mabolia, que je salue aussi, a évoqué. Le temps on a édicté le nouveau code minier, c'était pour créer ou pour libéraliser le secteur légalement, qui était déjà d'abord libéralisé, le secteur par exemple de cuivre et de cobalt. Le légaliser, nous l'avait déjà légalisé. Et puis, le souci, parce que le code minier, les gens doivent comprendre que ce code que nous avons aujourd'hui, je suis parmi les partisans, il ne faut pas le revoir, parce que pour moi, c'est parmi un des meilleurs codes miniers que nous avons sur le continent. Beaucoup de pays qui sont en train de revoir leur code aujourd'hui, dont les pays de l'Afrique de l'Ouest se réfèrent au code minier congolais, et parfois recourent aux mêmes experts. Le code a été créé pour que, édicté aussi pour qu'il y ait l'émergence d'une classe sociale. Parce qu'effectivement, comme le chef de l'État l'a dit, pour aussi mettre fin au paradoxe qui fait que la population un peu se révolte, s'inquiète, qui fait que William et les autres ont monté Géopolis, qui fait que Paul Mabolia, il est là aujourd'hui avec la plateforme pour la gouvernance, la bonne gouvernance, la redevance minière. Il faut qu'il y ait une classe sociale à un moment qui est comme un tampon, ou plutôt l'intermédiaire entre les plus riches et les pauvres afin de rétribuer les richesses. Moi, mon avis est celui-ci. Il y a deux pays, William l'a dit. On a besoin non seulement des fonds souverains, mais peut-être sous une autre forme. Prenons le diamant au Botswana. Les grandes multinationales comme DBS et les autres, l'État botswanais et en Namibie aussi, leur a imposé un pourcentage. Que vous le vouliez ou non, les pourcentages là-bas, c'est que l'État a au moins 50%, pour ne pas parler de 51%. Et ça passe. Ça passe parce que, aujourd'hui, le Botswana, c'est parmi les gens à revenus forts, au PIB fort. Il y a le Botswana, il y a la Namibie. Mais non, il y a une loi qui est en train de passer au Zimbabwe, où il y a Anglo-Américain, avec en place, les mines de platinum, accepté de donner 51% aux nationaux zimbabwéens. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le pays, l'État ou l'État, la République ne peut pas se désengager totalement dans du secteur des mines, comme du secteur de pétrole, comme du secteur de bois. C'est là que je salue les initiatives qui sont prises par la GECAMINE, afin de revenir être présente comme une entreprise de production. Il y a la deuxième chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que, est-ce que le code a été appliqué? Le grand problème que nous avons aujourd'hui, pour moi, le code n'a jamais été appliqué. Et là que c'est là que je dirais que pour moi la première résolution qui doit sortir, que j'attends de cette conférence, c'est que tout ce qui a été dit soit appliqué. Et là, je veux que la deuxième résolution soit la mise en place d'un tribunal ou d'une brigade de répression, répression des crimes économiques et répression des enrichissements illicites. Je prends le rapport Bakan déjà, le rapport qui a été fait sous la première législature, je pense. Il y a les députés qui s'étaient réunis, qui avaient audité le secteur et qui ont proposé. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement n'a rien fait. Je prends le rapport sénatorial Moutamba. Il est trop clair. Il est trop clair et il fait des recommandations. Le chef de l'État, comme disait Paul Mabolia, tout le monde parlait, mais aujourd'hui, le premier citoyen, le garant de la Constitution et de la Nation, le souverain, il vient de dire, écoutez, réfléchissons devant les voies et moyens. La première voie aujourd'hui, le premier moyen aujourd'hui, que la justice, que le procureur de la République se saisisse d'office des résolutions, des rapports Bakandeja, des rapports Moutamba, afin de voir clair dans ce qui s'est passé.
Merci.
Parce que nous avons au Congo un problème d'impunité. On ne punit pas les gens. La fraude, la contrebande, la corruption, mais sans prétenu par les gens qui ont été, identifiés dans les rapports, dans le rapport sénatorial Moutamba. Que aujourd'hui la justice se saisisse d'office, c'est une prérogative de la justice qui est constitutionnelle.
Merci Franck Famba. Willy Kalinga, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale.
À province orientale, pour que les ressources minérales de la RDC puissent répondre aux attentes de la population, le gouvernement congolais doit créer une direction générale de la recherche géominéralogique afin de déceler et identifier nos ressources résoudables et les faire certifier par des cabinets fiables des experts internationaux à la matière. Ceci permettra de conclure un contrat non seulement de concession, mais également de participation dont les avantages sont réellement mutuels, et je voulais dire entre guillemets win-win.
Voilà, je signale entre-temps qu'il nous reste moins de 8 minutes pour terminer cette émission. Réaction Willy Kalinga.
Je suis heureux, j'aurais voulu que cette proposition qui vient de Bounia soit adressée à Paul Mabolia, parce que ça va tout droit dans une activité qu'il vient de réaliser il y a quelques jours. En effet, j'ai personnellement assisté à la signature ou à la présentation d'un projet important avec le Musée Royal d'Afrique Centrale, Terre Vuren, qui est venu ici au Congo pour pouvoir réaliser avec le ministère des Mines dans sa direction promine que dirige Paul Mabolia, pour mettre en place des mécanismes qui feront que nous puissions être au courant, nous puissions savoir effectivement, quand nous parlons des minéralisations au Congo, qu'est-ce que nous avons. Nous partirons de la minéralisation vers les gisements. Donc il y a un véritable problème de connaissance de nos minéraux et ce projet existe. Je suis heureux que ceci aboutisse à la fin de ce projet. Je pense que c'est dans 5 ans que ça va se terminer. Il faudra qu'on mette en place un véritable service de géologie qui n'existe pas encore dans le pays. Ça c'est par rapport à la première question. La deuxième par rapport au contrat, je crois que c'est aussi vrai. Nous parlons de corruption, on parle de fraude, on parle d'impunité. D'ailleurs, Franck Famba vient de relever cela. Mais la grande question, la question fondamentale, c'est le respect des normes. Un pays ne fonctionne pas dans un régime de privilèges. La plupart des investisseurs, et je pointe les doigts sur eux, quand ils arrivent dans le pays pour investir, ils ne respectent pas les normes. Ils cherchent toujours un parapluie. Quelqu'un à la présidence, à la primature, au ministère, qui va être leur laquais, qui va travailler pour eux et qui va briser toutes les procédures pour obtenir un contrat. Ça, ça tue. Donc les régimes des privilèges, c'est ce qui tue et qui fait que l'image du pays à l'extérieur est un pays d'une image d'un pays corrompu. Parce qu'on s'est dit, dans ce pays-là, vous ne pouvez rien obtenir normalement. J'ai bien mis entre guillemets le mot « normalement ». Mais c'est une mauvaise image. Il faut donc réhabiliter l'administration. Je complète dans les résolutions qu'attend Franck Famba, j'ai complété la quatrième. Sans administration minière compétente, capable et restructurée, eh bien, l'État ne gagnera jamais rien parce que la fraude passe par des gens qui sont bien assis dans leur bureau et qui travaillent au nom de l'État pour leur compte.
Je pense aussi, Willy Kalinga, que parmi les défis que devrait relever cette conférence, c'est notamment concilier le développement du secteur minier et la protection de l'environnement.
Absolument. Et d'ailleurs, je suis heureux que ce soit à Lubumbashi parce que Lubumbashi reste quand même une des villes les plus polluées de notre province. Nous avons fait, je crois que, beaucoup d'enquêtes sur les rivières qui sont polluées. Des entreprises, presque des entreprises, des bandits sont installées dans la périphérie de la ville où l'impact environnemental n'est pas vraiment respecté. Il faut bien que l'on respecte l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes un des pays, non seulement nous avons les mines, mais nous avons aussi la protection de l'environnement, de l'écosystème. Le mariage, l'intelligence doit être mise à rude épreuve pour que nous trouvions un équilibre entre la protection de l'environnement, de l'écosystème et la production des ressources naturelles. C'est un travail qui nous attend.
Alors j'ai posé la question à Paul Mabolia sur la démilitarisation. Il a dit que c'est un problème qui allait au-delà même de la bonne gouvernance par rapport à cette conférence. Qu'est-ce qui pourrait être dit dans ce sens?
Non, mais je pense que aujourd'hui, dans les zones qui sont aujourd'hui sous exploitation militaire, parce qu'il y a des groupes armés. Quand vous regardez l'arc qui sort autour de notre cuvette centrale, donc à partir de la province orientale vers Bounia jusqu'au nord Katanga, vous allez voir qu'effectivement il y a une bande, une zone qui est peuplée par des hommes en armes et qui exploite de manière artisanale. Donc la démilitarisation est une des conditions essentielles et c'est une question de sécurité et l'armée, je pense, est en train de s'atteler parce qu'il faut pacifier, il faut démilitariser les zones minières, mais il faut aussi que, pour démilitariser, il faut que là où il y a de l'artisanat, qu'on met des vraies industries. Ce qui manque à l'est du pays, et c'est ce qui est même une cause d'insécurité, c'est qu'il n'y a pas d'industrie minière à l'est du pays.
Alors en guise de conclusion, qu'est-ce que les internautes et auditeurs qui vous suivent peuvent retenir, Willy Kalinga? Faut-il espérer par rapport à cette conférence?
Moi je pense qu'il faut espérer toujours des hommes, tant qu'ils ont la bonne volonté et la bonne foi. Mais il faut aussi exiger des hommes que nous avons mandatés. Il faut exiger des hommes qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que notre pays sorte finalement. Nous sommes aujourd'hui 181e sur 185 sur le Doing Business de 2013. Donc il faut que nous puissions faire confiance, mais exiger redevabilité.
Merci Willy Kalinga. Je rappelle que vous êtes directeur général de Géopolis, magazine économique des activités extractives. Paul Mabolia Yenga, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion?
De conclusion, je reprends encore une fois ce que le président de la République a établi. La bonne gouvernance doit être constamment améliorée. Et en ce qui concerne la transparence, on est en perpétuel progrès. Là où nous étions, ou regardez où nous sommes et là où est-ce qu'on peut aller. Il y a quelque temps, on ne pouvait pas être toutes les trois parties prenantes, société civile, industrie et gouvernement, mises ensemble pour parler. Là, nous sommes en train de le faire. Donc c'est une occasion à saisir pour pouvoir donc faire des propositions assez concrètes parce que merci. Je ne pense pas qu'on pourra imposer quelque chose, des recommandations qui ne seront pas acceptées par les autres parties prenantes.
Merci.
Et on peut saisir l'occasion pour faire aussi un canevas, un chronogramme d'action clair et net, un plan précis pour pouvoir faire un suivi jusqu'à l'année prochaine.
Merci Paul Mabolia Yenga, coordonnateur national du programme d'appui au secteur minier Promine. Franck Fouamba, juste un mot pour terminer.
Pour terminer, je dirais que la loi est dure, mais c'est la loi. Toutes les parties prenantes, gouvernement, opérateurs miniers, institutions de la société civile, chacun doit faire l'effort pour que la loi minière, celle-ci ou celle qui pourrait être modifiée, puisse
merci.
Être appliquée.
Merci.
Afin que la constitution aussi soit appliquée, afin que...
Merci Franck Fouamba, désolé de vous couper. C'est par vous que nous terminons cette émission. Bonne suite au programme sur Radio Okapi. Au revoir.